Space Cast
avec JF Blais et Louis Gauvin.
Radio X.
Vous êtes à l'écoute du Spacecast sur les ondes de Choix Radio X. Je m'appelle Jean-Francis Blais. Face à moi, j'ai Louis Gauvin.
Oui, monsieur.
On va mieux. Notre état de santé s'améliore. Fait que ça, c'est une excellente nouvelle.
Bien.
Ah ouais, maintenant, ça va bien. Maintenant, ça va bien. Même si ça, on essaie que ça paraisse pas trop, là, c'est sûr que quand on se met à suinter au plein milieu des entrevues, ça génère des malaises en studio.
Ça peut être tough.
Un petit peu. Hey, dans un autre ordre d'idée complètement, puis là, c'est une entrevue qui va se valoir... être plus sérieuse un peu, mais c'est un sujet qui, moi, ben vous le savez, en fait, là, quand je traite d'enjeux qui touchent la politique, souvent la motivation que j'ai derrière ça, c'est la protection de l'enfance. C'est qu'est-ce qu'on va léguer comme monde aux enfants. Fait que mon corps d'intérêt est par rapport à, ben égoïstement, la destinée de mes deux filles, mais aussi des enfants tout court.
Là,
c'est ça. Puis, tu sais, je trouve que la jeunesse, c'est ce qu'on a de plus beau, tu sais. Puis, c'est des phrases méga quétaines, mais je le pense, que voulez-vous. Fait que c'est sûr que, tu sais, quand je mets la main sur un livre particulièrement intéressant, duquel on va jaser au courant des prochaines minutes, mais que je tombe sur des statistiques qui sont juste... Je veux dire comme je le pense, là, fucking épeurante, OK? Des statistiques qui sont à glacer le sang, des augmentations là, au courant des... Attends un peu, je lis ici, OK? Je vais te le lire exactement. Les statistiques du Québec démontraient que 6 fois plus d'adolescentes de 12 à 17 ans consommaient des antidépresseurs en 2023 qu'en 2019. Une augmentation de 445% en seulement 4 ans.
C'est alarmant.
Des adolescentes et adolescents qui prennent des antidépresseurs en quantité industrielle. Moi, ça me fait capoter. Pour en parler, je suis très, très, très heureux qu'elle ait accepté notre invitation. Elle s'appelle Karine Gauthier. Elle est psychologue, clinicienne et neuropsychologue depuis 22 ans. Fait qu'elle, des gens qui vivent des problématiques et qui tentent de les surmonter, elle n'en a vu rien qu'en masse. Madame Gauthier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous allez bien?
Oui, merci, vous?
Oui, très, très bien. Merci d'être là. C'est apprécié. Comment est venue l'idée de votre livre? Hein? Comment est née l'idée de faire un livre, d'écrire un livre?
Bien, c'est sûr que, comme vous, hein, moi aussi, je suis très préoccupée. Je travaille à temps plein avec les enfants, les adolescents. Puis, au début de ma carrière, c'était très rare qu'on voyait des enfants qui prenaient de la médication. Maintenant, c'est vraiment rendu monnaie courante. Donc, des fois, c'est très pertinent, là. On s'entend, des fois, les jeunes en ont besoin. Hein. C'est pas un plaidoyer contre la médication, mais c'est juste que il y en a vraiment de plus en plus. Puis je vois que l'accès aux soins, aux bons soins, comme il devrait pouvoir avoir accès, finalement, est beaucoup plus difficile. Donc, il y a plus de détresse, plus de médicaments. Puis moins de services, par exemple, des psychologues dans les écoles, dans les CLSC,
Vous piquez ma curiosité, puis je trouve ça particulièrement intéressant que vous commencez avec ça. Vous voyez donc un changement au courant des 22 dernières années, depuis que vous pratiquez, il y a un changement, c'est-tu au niveau du réflexe d'aligner très rapidement vers les médicaments, ou bien c'est carrément le mal-être qui gagne du terrain chez la jeunesse?
Bien, en tout cas, avec les études là, que je cite dans mon livre, là, j'ai fait beaucoup de recherches, on voit qu'il y a vraiment une augmentation en lien avec le niveau de détresse des jeunes. Donc, il y a ça qui joue. Mettons, si on regarde juste l'anorexie, par exemple, ben on voit que les difficultés sont plus sévères. Donc, mettons, les pertes de poids sont plus sévères. Il y a plus de conséquences au niveau physique. Donc je pense qu'il y a vraiment le fait qu'il y a plus de détresse. Est-ce que là, on va plus vite vers ça? Ça, c'est une très bonne question. Peut-être que c'est une combinaison des deux, mais ça, j'ai pas la réponse spécifique. Je pense que, tu sais, les médecins et puis les gens qui peuvent prescrire font vraiment leur possible, mais souvent, c'est qu'il n'y a pas d'autres options. Donc, je pense que l'accès aux services appropriés pour le jeune est pas là. Puis là, ben, les jeunes sont excessivement en détresse. Il y en a qui ont des idéations suicidaires. Il y en a qui dorment plus vraiment, qui vont plus à l'école, qui arrivent plus du tout à fonctionner, finalement, puis à être à être moindrement bien, là. Puis, mm-hmm. puis là, ben, le médecin, il est pris, là, dans les quatre murs de son bureau. Puis la seule option qu'il voit, c'est qu'il y a, finalement, c'est la médication. Donc, donc le manque de services, puis le fait que les jeunes, oui, je pense, vont moins bien, là, depuis surtout la pandémie. Là. Ouais.
Je le mets sur la table, là, puis c'est pas, je veux pas vous piéger d'une traque conspire ou quoi que ce soit, mais est-ce qu'il peut y avoir aussi la recherche? Est-ce que vous pensez vraiment, là, qu'est-ce qui prédomine, en fait, dans la situation? Est-ce que c'est le meilleur intérêt de l'enfant ou il n'y a pas aussi une recherche de profit de la part? Parce que j'imagine que le marché de l'antidépresseur doit être un marché extrêmement payant. Donc, est-ce que ça peut jouer aussi en ligne de compte?
Ben, en tout cas, il n'y a pas rien qui pointe vers ça. Je pense que c'est réglementé là, quand même que de ne pas avoir de bénéfices pour les prescripteurs, qu'il n'y ait pas de gain à prescrire de la médication. Donc, ça me surprendrait parce que c'est vraiment... je pense qu'ils sont pris avec des jeunes puis des parents là, des familles là qui font, tu sais, pour qui ça marche plus. Mm-hmm. Puis il y a pas d'autres services disponibles, donc une des options, ben, c'est la médication qui peut pallier, qui peut aider un peu, mais qui, comme le titre de mon livre le dit, ne règle vraiment pas tout. Donc c'est là, je pense que c'est vraiment important d'agir là, pour prévenir là, le développement des troubles, parce que plus les jeunes, on attend avant de les aider quand il y a un problème qui est assez, des fois, mineur. Tu sais, un jeune, par exemple, qui s'inquiète en lien avec ses examens, présentation orale, tout ça, qui commence à moins bien dormir, ben c'est là qu'il devrait avoir de l'aide. T'sais, pas quand c'est rendu vraiment... de l'anxiété généralisée puis qui arrive plus à aller à l'école, finalement. Là,
votre livre, là, j'aurais peut-être même dû commencer avec ça. Votre livre, est-ce que vous le voyez comme une espèce de coup de main aux parents? Est-ce que c'est le public cible principal, les parents?
Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Mais moi, dans ma façon de voir les choses, je suis comme il faut donner des... il y a beaucoup de conseils aux parents, là, même des phrases, tu sais quoi dire. C'est très, très, très concret pour les parents. Mais en même temps, il y a tout un côté, dans le fond, que j'informe de la situation. Parce que je pense que quand on comprend ce qui est en train de se passer, quand notre enfant, par exemple, le médecin parle des antidépresseurs, ben là, d'avoir les questions en tête, de comprendre qu'est-ce qui se passe, de voir, OK, c'est-tu la meilleure option pour mon enfant, ou peut-être que oui, peut-être que non, de discuter des effets secondaires, de discuter c'est quoi les autres options possibles. Donc, c'est tout ça que j'explique dans mon livre. Donc, oui, c'est vraiment pour le public cible, c'est les parents, mais c'est sûr que toutes les personnes qui sont impliquées, les enseignants, les médecins, par exemple, toutes les personnes, les professionnels qui sont impliqués auprès des enfants, je pense, peuvent en retirer quelque chose, finalement.
OK. Si je reste encore sur ce qu'on se disait tantôt par rapport à qu'est-ce que ça cache, là, d'avoir le réflexe de se tourner vers les antidépresseurs, est-ce que... Puis, en fait, là, je vous expose une de mes pensées ou un questionnement que j'ai, puis peut-être que je suis dans le champ, mais est-ce que l'innocence d'antan que peut-être vous aviez à l'époque, que moi j'avais, en tout cas moi, jusqu'à 13 ans, là, tout ce qui m'intéressait, c'était jouer au hockey dans la rue, les filles, ça pue. Puis, vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y en avait pas de stress. Puis des fois, c'était oui, j'étais stressé de passer mon examen ou pas par peur de doubler, mais jamais au point d'en être, mis sous médication. Est-ce que justement, ça nous protégeait de tout ce stress-là, cette espèce d'innocence-là?
C'est sûr que, on vit dans un climat plutôt, beaucoup de gens sont stressés, beaucoup de parents sont stressés financièrement, politiquement, tout ce qui se passe. Donc, c'est sûr que peut-être, ça a un impact sur les enfants. Donc peut-être que oui, ils perdent un peu pour certains, en tout cas, là, qui sont trop en contact avec les difficultés.
Le stress de la vie.
Le stress de la vie qui devrait concerner les adultes. Puis tu sais, il y a tous les réseaux sociaux et tout ça. Là, maintenant, c'est comme infini la quantité d'informations que les enfants peuvent avoir.
Ben oui.
Puis pour certains, ben oui, ça peut contribuer au fait que, OK, Là, ils commencent à s'inquiéter avec plus de choses, avec l'avenir, avec plein d'enjeux, puis ça peut devenir lourd. Puis il y a aussi, tu sais, quand on dit qu'est-ce qui contribue à ça, je pense que on est vraiment dans une société de performance. Puis là, c'est comme au niveau de la santé mentale. OK, ben, tu sais, on va prendre les options qui ont l'air les plus qui ont l'air, là, entre guillemets, parce que c'est pour certains, ça fonctionne pas, là, ou pour certains, c'est très limité, l'effet que ça peut faire, tout ça, les antidépresseurs. Mais c'est quand même une solution rapide. On écrit une prescription, on va à la pharmacie, on prend la médication. T'sais, versus une psychothérapie où là, il y a un travail qui doit être fait par la personne aussi, puis tout ça. Donc des fois, il peut avoir cette recherche-là. Là, j'ai un chapitre là, t'sais, qui explique qu'il n'y a pas de baguette magique au niveau de la santé mentale. Malheureusement, là, t'sais, on veut en trouver dans plein de domaines des solutions qui fait que c'est plus... que c'est plus rapide. Je pense qu'il y a comme cette recherche-là de rapidité dans une société qui va de plus en plus vite, puis que finalement, on peut nuire même là, si un jeune va vraiment pas bien, puis on essaie trop de trouver une solution rapide. C'est comme si on n'écoutait pas sa détresse finalement. Ouais.
Est-ce que ça peut ça peut s'expliquer peut-être par un genre de nouvelle génération de parents qui, souvent, au lieu d'essayer de trouver la source du problème, vont juste régler ça rapidement, vont patcher temporairement avec toutes sortes de pilules. On peut parler des antidépresseurs, on peut parler du Ritalin, de toutes ces affaires-là qu'on donne aux enfants. Au lieu d'essayer de trouver pourquoi l'enfant est comme ça, on lui donne ça juste pour qu'il nous sacque la paix. Est-ce que ça peut être un peu ça?
Ben, c'est sûr que ça va... Je pense pas que c'est la majorité des parents. Je pense qu'ils prennent ça très, très au sérieux là, quand c'est le temps de donner une médication à leur enfant. Mais en même temps, des fois, c'est juste trop d'enjeux, de difficultés. Puis ils sont pas nécessairement, ils ont pas les outils pour aider leur enfant. Mm-hmm. Donc là, on leur propose une solution enfin. Souvent, ça peut être un chemin qui est long. Puis là, souvent ils vont accepter. C'est sûr qu'il y a certains parents, comme je cite une étude là, qui des médecins qui disaient des fois c'est les parents qui mettent la pression pour recevoir, tu sais, pour que l'enfant ait une prescription. Donc ça peut se voir aussi, mais je pense pas que c'est ça vraiment c'est pas la majorité des cas. La plupart du temps, les parents essaient d'autres choses, essaient de trouver, essaient de s'informer, essaient de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Puis souvent, c'est comme par dépit, un peu comme les médecins aussi, c'est ça qu'ils me disaient beaucoup, là. C'est on prescrit, mais souvent par dépit, parce que là, on a dit, OK, bon, on va faire un suivi, on va voir si ça s'améliore. Finalement, ça s'améliore pas. On va leur dire d'aller voir pour voir un psychologue ou de faire une évaluation neuropsychologique. Puis là, finalement, ils trouvent pas de service. Ils ont pas les moyens pour aller en privé, par exemple, ou quoi que ce soit. Puis là, ça se détériore. Puis là, à un moment donné, ils décident d'aller vers la médication.
Ouais, mais effectivement, j'ai tendance à être d'accord avec vous parce que les parents, je m'imagine mal des parents qui, un peu comme le cellulaire au restaurant, comme OK, arrête de parler, voilà mon cellulaire. Tu sais, là, les parents qui voient leur enfant qui vont pas bien, ils font les bonnes choses, dans le fond, d'aller consulter, d'essayer d'aller chercher des plutôt que faire, hey, t'es un homme, broille pas. Tu sais, ils essayent d'aviser le problème, puis t'as un professionnel de la santé qui les envoie vers des médicaments. Fait que je peux comprendre qu'on est vraiment dans beaucoup de confusion. Je suis curieux de savoir à partir de quel âge, d'un point de vue médical, là, on peut donner des antidépresseurs à un enfant. Est-ce qu'il y a un âge barème en termes de bas âge?
Ben, dans le fond, souvent les antidépresseurs sont utilisés là, hors autorisation officielle. On en voit là chez des assez jeunes enfants là quand on regarde là vers 6 ans des fois là donc
ouais ans. Donc
ouais c'est rare mais c'est quand même c'est ça dans le fond que j'explique là quand j'ai fait mes recherches qu'on envoyait tu sais il y en a plus mais c'est aussi chez des enfants de plus en plus jeunes donc ça aussi c'est inquiétant tu sais ouais
Est-ce qu'on a des études qui ont été faites sur, au-delà de, est-ce que ça améliore son humeur générale, là, juste sur le corps en tant que tel, sur le long terme, les antidépresseurs, ça fait quoi sur un corps humain? Est-ce que ça a des effets secondaires qui sont un mal pour un bien? T'sais? Et surtout commencer à l'âge de 6 ans. Wow.
C'est jeune.
C'est C'est jeune, hein, c'est ça. Mais dans le fond, il n'y a pas beaucoup d'études, hein, c'est ça. Je le dis souvent dans mon livre. Fait que là, des fois, je dis, OK, bon, mais ça va, tu sais, je vais présenter les données chez les adultes parce qu'il n'y en a pas chez les enfants. Mais pour les effets à long terme, ce qui était ressorti, c'est au niveau du diabète. Mais tu sais, c'est vraiment pas tout le monde là, qui vont développer ça, mais des risques par rapport au diabète de type 2, des problèmes au niveau de la densité des os. Pour certains, c'était au niveau de la croissance aussi. Okay. C'est des effets, mais c'est très peu étudié. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'études. C'est pour ça que c'est sûr que le cerveau d'un enfant, c'est pas le cerveau d'un adulte. Donc, il faut faire attention aussi, parce que sans études,
Ouais, c'est ça. Mais en fait,
aussi,
son cerveau est en plein développement. Moi, j'ai une curiosité par rapport à ça. Qu'est-ce que l'effet... Tu sais, je comprends, c'est un recapteur de sérotonine, là, dans la majorité des cas, probablement qui sont donnés à des enfants, mais quel est l'effet sur un cerveau qui est en plein développement? Là? Moi, ça me trouble, cette information-là que vous venez de nous dire.
Oui, bien, je suis désolée, mais j'ai pas la réponse. Dans mon livre, j'explique comment le cerveau, justement, se développe quand on est enfant, mais là, je peux pas dire parce que l'effet de la médication, parce que, en tout cas, moi, dans les recherches que j'ai faites, j'ai pas trouvé d'études qui expliquaient les effets potentiels sur le cerveau en développement.
Puis d'un point de vue de problème, tu sais, de problème personnel, parce que à 6 ans, oui, tu vis probablement un certain stress, là, tout dépendant aussi du type de tempérament que tu as, mais je veux dire, tu vas en vivre d'autres, des stress dans ta vie, puis là, en premier lieu, à l'âge de 6 ans, je prends cet exemple-là parce que, comme vous voyez, il marque, là, t'endors, moi, c'est l'expression que je vais employer, t'endors ou tu engourdis cette problématique-là, mais il me semble que c'est la facilité tôt dans une vie, puis que plus tard, peut-être des traumatismes ou des difficultés encore plus graves seront encore plus dures à surmonter, non?
Ben oui, puis en plus, ce que vous dites, il y a des professionnels dans une étude qui en parlaient justement, tu sais, qui disaient on craint, tu sais, de faire en sorte que, tu sais, c'est plus des problèmes, mettons, au niveau familial, au niveau de la dynamique de l'environnement dans lequel est l'enfant, qui pourrait avoir du travail qui est fait pour aider les parents, pour que l'environnement soit, ben dans le fond que les parents soient plus ajustés puis savent plus comment intervenir puis agir avec leur enfant, lui parler, tout ça, le comprendre, puis que l'enfant aussi, donc tu sais, plus dans le fond, que les interactions soient plus dans le fond meilleures, puis que l'enfant se sente mieux finalement, puis les parents aussi. Puis quand ça c'est pas disponible, puis on passe à la médication, effectivement, ben ça l'envoie le message, OK, ben c'est l'enfant qui est le problème à quelque part. Alors que dans en jeune âge, surtout, ben même plus vieux, quand on vit dans une famille, ben c'est sûr qu'il faut regarder toute la famille. Là, qu'est-ce qui se passe pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des choses dans l'environnement qui peuvent changer? Est-ce qu'il y a des interventions qui peuvent être faites auprès des parents, puis auprès de la famille? Donc c'est important. Puis des fois, comme c'est pas disponible, ben là, on médicamente rapidement, puis ça l'envoie comme le message que, OK, ben avec la médication, on va, dans le fond, que ça va régler le problème. Et finalement, la source est souvent multiple. Il y a plusieurs choses à changer pour qu'un enfant se sente mieux puis s'épanouissent finalement.
Ben oui, puis j'avais en tête, peut-être que c'est pas le cas, là, à vous de me le dire, mais que les antidépresseurs, pour un adulte, là, dans un cas, une situation, disons, en guillemets, plus normale, c'est pour un temps, là, c'est comme pour passer par-dessus peut-être une passe-toff ou peu importe. Mais là, l'enfant, il est en bas âge, oui, il est stressé pour passer ses examens, puis je suis pas en train de prendre de haut ces stress-là, là, ils sont légitimes, mais je veux dire, donc, on le voit, au moment où c'est prescrit, on semble pas nécessairement le voir comme quelque chose de temporaire. Est-ce que
tu as un abonnement à vie?
Oui, c'est ça. Est-ce qu'on le vend comme quelque chose jusqu'à l'âge adulte?
Bien, c'est une de mes recommandations à la fin de mon livre là, par rapport à la déprescription qu'on appelle, tu sais, de vraiment... Il y a des psychiatres qui me disaient qu'ils sont vraiment comme spécialisés là-dedans, là, c'est-à-dire d'enlever les médicaments, parce qu'il y a des enfants qui en prennent plusieurs en même temps plus, là, hein, fait que ça peut être complexe, là, de justement de commencer à diminuer les doses puis pour finalement les enlever. Donc, pour pas que ça soit des, justement, comme vous dites, là, des abonnements à vie, là, pour que, parce que l'enfant, il change, son milieu change, il évolue. Fait que ça se peut que, OK, pendant une certaine période, ça allait vraiment pas bien, puis tout ça, mais là, à cause qu'il mature, puis tout ça, dans le fond, ça vaut la peine d'essayer de diminuer, puis selon les situations, là, puis même d'arrêter, là, finalement, pour pas que ça soit non plus... tu sais, qu'on n'en reparle pas, dans le fond. Fait que c'est ça que je parle pour les parents, là, dans mon livre aussi, de dire, tu sais, d'en reparler éventuellement quand on sent que, OK, ben ça va mieux, puis tout ça, puis l'enfant... Idéalement, il a fait un cheminement là, en psychothérapie là, pour avoir des outils, pour comprendre pourquoi, dans le fond, il s'est rendu autant aussi déprimé, aussi anxieux que ça, pour pas retomber. Là, parce que c'est ça, dans le fond, que la psychothérapie apporte. Mm-hmm. C'est vraiment une protection contre la rechute. Versus les antidépresseurs, ça va aider certaines personnes, là, chacun, ça varie d'une personne à l'autre, mais ça va aider. Mais après, si on arrête, ben, il y a plus de risques de retomber, là, finalement, soit dans la dépression, par exemple.
Là. Peut-être qu'on a des jeunes parents qui sont à l'écoute et qui se disent hey, « je veux pas me rendre là avec mon enfant qui est à venir ». On aurait quoi à dire à ces parents-là pour s'assurer que notre enfant ne soit pas particulièrement anxieux, que cet enfant-là ait un bel estime de soi, t'sais, pour travailler en bas âge avec un enfant, pour justement le bâtir, pour qu'il n'y ait pas ces problématiques-là. Est-ce que vous en parlez un peu dans votre livre?
Oui, c'est ça. Je commence assez jeune pour donner des conseils, justement. Puis je parle de... Parce que c'est toute une question d'équilibre. Tu sais, je parle de la parentalité, tu sais, équilibrée. Tu sais, pas trop surprotecteur, pas non plus de la négligence. Tu sais, c'est tout comme de laisser l'enfant faire n'importe quoi. Ou sinon, de tout encadrer, de tout gérer son horaire, de tout limiter pour pas qu'il y ait jamais d'échec, puis tout puis que tout qu'est-ce qu'il fait, tu sais, comme d'avoir vraiment comme le milieu pour que dans le fond, tu sais, d'être dans une parentalité puis un encadrement qui est équilibré, que comme ça l'enfant sent que OK, j'ai de l'autonomie puis je suis capable de me développer. Puis si j'ai peur de certaines choses, il y a certaines choses qui me rendent anxieux, ben je vais être accompagnée par mes parents pour le faire quand même. Mais tu sais, ça peut être en étapes, ça peut être, tu sais, je fais une analogie avec les enfants, tu sais, qui, tu sais, c'est comme si le parent, quand l'enfant apprend à marcher au niveau physique, là, tu sais, qu'il a peur que l'enfant tombe dans l'escalier.
Oui.
Fait que là, il dit ah, non, mon enfant, ben non, tu vas pas dans l'escalier, tu vas pas. Ben l'enfant apprendra jamais à monter les escaliers, tu sais. Mm-hmm. Fait que là, c'est sûr qu'il va avoir peur des escaliers, puis qu'il va pas développer les muscles, puis ça, si on l'empêche. Donc c'est un peu la même chose au niveau psychologique. Mais des fois, c'est très complexe pour certains, parce que c'est sûr que il faut s'ajuster selon la personnalité de l'enfant, selon le niveau de son anxiété, puis selon le parent aussi. Des fois, c'est des choses que le parent, lui, a vécues, qui lui rappelle des choses à lui, puis tout ça. Des fois, il faut une aide professionnelle, mais de garder ça en tête, tu sais, de pas aller trop vers, tu sais, la surprotection, puis de voir que l'enfant, il y a vraiment, tu sais, je donne des exemples dans mon livre d'un jeune enfant, là, tu sais, de 3 ans, là, qui a trouvé des solutions, tu sais, lui-même. Donc, ils ont vraiment comme, tu sais, si on leur laisse la porte ouverte aussi pour trouver des solutions pour progresser, puis pour, mettons, être moins, tu sais, avoir moins peur, versus éviter, dans le fond, éviter la situation. OK, ben ça, t'aimes pas ça, ça te rend trop anxieux, ben on va changer.
Ouais,
aider, dans le fond, de les accompagner. Mais c'est pas tout le temps facile. Là. Ça a l'air facile quand je le dis, là, mais je veux pas que les parents sentent que, OK, moi, j'y arrive pas. Ben dans certaines situations, c'est vraiment difficile. Tu sais, quand on a un enfant vraiment avec un trouble anxieux, là, puis que l'anxiété est tellement forte, ben c'est sûr que là, faut une aide professionnelle, parce que le parent... peut pas avoir toutes les compétences, mais de garder ça en tête, par exemple, pour les plus jeunes enfants.
Hey, comme je prends un chemin inattendu, là, vous pensez quoi des CPE, entre autres, comme système, et je m'explique ma question, du fait de passer d'être en bas âge
Donc, d'avoir un besoin d'attachement vis-à-vis une figure, soit maternelle ou paternelle, ou peu importe, d'autorité, et que année après année, cette figure-là change. Est-ce que ça peut jouer par en dessous dans l'inconscient? Là, je fais de la psycho à 25 cents. Là, c'est vous, la psychologue, là, à vous de me dire si je suis dans le champ. Mais est-ce que ça peut jouer par en dessous, justement, sur le trouble anxieux, le fait de perdre sa figure d'attachement année après année?
Bien, vraiment, c'est plus au niveau parental. Tu sais, si les parents, tu sais, qu'il y a une stabilité au niveau, tu sais, des parents, là, tu sais, que c'est sûr qu'il est le plus démontré, là, puis qui est important, là. Tu sais, mettons un enfant qui pourrait pas garder, tu sais, une constance parce que le parent est souvent, tu sais, il y a des problèmes de toxicomanie, par exemple, et que là, l'enfant est s'en va d'une maison à l'autre, quoi que ce soit, chez différentes personnes, tu sais, au niveau de l'attachement, qui sent pas qu'il peut avoir une présence stable puis réconfortante, puis dans le fond, s'il y a des problèmes, d'avoir un adulte qui sait qu'il va être là pour l'aider, finalement, tu sais, dans le fond, c'est ça qui est important.
Okay.
Plus au niveau de la famille. Mais c'est sûr que s'il y a des changements tout le temps, mais on essaye, je pense qu'en tout cas que les CPE, ils essayent, là, sont assez conscients de ça. C'est sûr que des fois, il y a du roulement de personnel, mais d'essayer de garder quand même le personnel le plus stable possible, mais je pense pas qu'il y a de recherche qui démontre que c'est ça, que ça va faire des problèmes au niveau de l'attachement, parce que les enfants s'adaptent quand même bien. T'sais, s'ils voient que l'éducatrice, OK, ben, oui, c'est une nouvelle éducatrice, mais si je pleure, elle vient me voir. Si tu sais qu'il y a une structure puis que je suis en sécurité ici, mm-hmm. ben les enfants peuvent s'adapter, puis ils savent que leur figure d'attachement, là, vraiment, leurs parents sont là quand ils retournent à la maison. Mm.
Le bien-être ou plutôt la santé mentale de l'enfant, est-ce que vous considérez qu'il y a une part à l'école de s'occuper de ça aussi, parce que veut pas, puis c'est pas une question d'un père qui veut pitcher ses problèmes dans le cours d'un autre, mais c'est juste je regarde le temps que mes enfants passent à l'école, puis c'est une bonne partie du temps où je suis pas là. Est-ce que vous considérez qu'il devrait y avoir davantage d'accompagnement ou qu'on adresse la santé mentale des enfants d'une autre façon? Parce que là, visiblement, avec les chiffres que vous nous mentionnez depuis tantôt, il y a quelque chose qui ne va pas, là.
Oui, bien, c'est sûr que l'école, comme vous dites, là, les enfants passent plusieurs heures par semaine dans ce milieu-là. Donc, d'avoir des milieux qui sont quand même, tu sais, qui comprennent les enjeux. Puis, ce qui aide, c'est d'avoir des professionnels, justement, comme qui sont vraiment spécialisés, là. Mais malheureusement, comme j'explique, tu sais, je donne des statistiques, là, au Québec, c'est 24%, il y a 24% moins de psychologues dans les écoles, là, tu sais, dans les dernières années. Ça a vraiment diminué. Okay. Donc ça, c'est vraiment dommage, parce que ça pouvait vraiment contribuer à, ben, ça y contribue encore, là. Il en reste, là, mais c'est malheureux de voir que ça diminue alors que le nombre d'élèves augmente, hein, parce que au Québec, là, c'est ça, le nombre d'élèves dans les écoles a augmenté.
Et le besoin aussi augmente.
Et les besoins augmentent. Puis des fois, des fois, c'est un rôle consultatif aussi, là, tu sais, c'est pas nécessairement que le psychologue voit tous les enfants, là. Oui, c'est important qu'ils en voient directement, mais aussi de pouvoir être consulté par les enseignants pour savoir, OK, qu'est-ce que tu me recommandes en telle situation, tout ça, juste pour être sûr aussi pour les enseignants, là, tu sais, qui sentent comme, OK, j'ai un soutien si j'ai besoin, tu sais, si j'ai des questions pointues en lien avec la santé mentale d'un jeune, on peut pas leur demander d'être des psychologues surtout. De traiter des problèmes de santé mentale, mais d'avoir plus de formation, oui, je pense que ça pourrait être bon. Puis je pense que les enseignants, moi, j'ai fait certaines recommandations, le fait que j'avais consulté, là, certains enseignants dans mon livre, là, par rapport au milieu scolaire, puis je pense que c'est ça, eux autres, ils aimeraient, là, pouvoir être plus équipés, là, parce que c'est sûr que des enfants qui font, par exemple, des attaques de panique dans la classe.
Oui, c'est clair que la stabilité de leur classe est foutue, là, quand il y en a un qui fait une crise de panique, puis c'est pas cool pour eux non plus, là, je comprends, ben oui.
Exactement. Donc, d'avoir accès à des bons services dans les écoles, oui, ça peut vraiment aider, puis ça simplifie tellement la vie de tout le monde, du jeune de l'équipe école, de toute l'équipe école et des parents aussi, parce que c'est intégré, tu sais, dans le milieu scolaire. Donc, ça serait souhaitable que ça réaugmente finalement.
Souvent, les gens qui utilisent la fameuse pandémie de COVID-19 comme excuse à tout, je trouve que c'est un peu un raccourci intellectuel, mais quand même, c'est quelque chose qui est arrivé qu'on peut pas effacer de notre histoire, puis que les jeunes ont quand même vécu d'une manière assez difficile, en tout cas pour certains. Pensez-vous que si cette pandémie-là n'arrive pas, qu'il y en a jamais, on est là où on en est aujourd'hui dans cette situation-là?
Ouais, les chiffres sont-ils les mêmes?
Ouais, j'ai une section que je parlais ça dans mon livre, hein, puis malheureusement, ça a contribué à une augmentation là, pour de certaines problématiques de santé mentale, dont l'anorexie, la détresse, la dépression, l'anxiété chez les jeunes, parce que dans le fond, eux sont comme pendant la pandémie, pendant que les écoles étaient fermées, tout ça, ou en tout cas les activités sportives étaient très limitées ou les activités sociales, tout ça, les autres étaient dans un moment de leur vie où c'était vraiment important. Tu sais, comme nous, comme adultes, oui, c'était dur, mais c'était pas développement. On n'avait pas besoin de ça pour se développer. Tu sais, on a déjà vécu notre adolescence. Mais eux, particulièrement les adolescents, là, dans le fond, c'est ça. Ça a été difficile parce que ça les a coupés de quelque chose dont ils avaient besoin. Tu sais, dans le fond, c'est comme une période où on s'éloigne de notre famille. On se fait, tu sais, souvent, tu sais, c'est plus le cercle d'amis qui prend de la place, ça, puis on devient de plus en plus autonome, indépendant aussi dans notre façon de penser, de voir les choses, tu sais, c'est quoi mes valeurs, moi, qui mes parents, c'est ça, tu sais. Puis là, c'est comme s'ils ont été coupés de ça. Donc, puis les études, il y a beaucoup d'études qui démontrent où ça. Mais c'est que les problématiques de santé mentale ont augmenté, certaines problématiques ont augmenté, mais c'était en augmentation avant, par exemple. Donc, on peut pas tout mettre là-dessus, mais je pense que ça l'a quand même fait que la courbe est un peu plus abrupte, finalement.
Je comprends. Ça a pesé sur l'accélérateur.
Okay. Oui, c'est ça, exactement.
OK. Ouais. C'est pas une problématique qui est réservée au Québec, hein? C'est assez occidental comme problème.
Si on parle de la prescription d'antidépresseurs, est-ce que c'est ça que vous dites?
Oui, exact. C'est ça la problématique générale duquel on parle.
Exactement. Oui. Dans le fond, il y en a partout là dans le monde, en Europe, même en Asie, des études que je cite qui montrent que ça a augmenté aussi. Donc, ça a l'air assez répandu là.
Okay. Donc, il n'y a pas nécessairement de modèle à quelque part dans le monde que vous dites « Ah, ça, c'est intéressant, c'est à calquer par rapport à leur prise en charge de l'enfant. » Y a-t-il un endroit qui se démarque du lot? Parce que je lisais justement votre livre et souvent, on va avoir tendance à pointer les pays scandinaves comme étant ce qui se fait de mieux, mais là, vous me parlez du même phénomène en Suède. Donc, y a-t-il un endroit dans le monde qui tire bien son épingle du jeu par rapport à ça?
Hey, c'est une très bonne question. À date, j'en ai pas trouvé, mais je me dis que je pourrais continuer à chercher.
Ben voilà. Et ça vous donnera l'occasion de nous pondre un tome 2.
Oui, exactement. Mais je me dis que ça, une chose qui est ça, c'est d'avoir un ministère de la santé mentale. Tu sais, juste d'avoir comme d'avoir une voix, d'avoir une place. Tu sais, là, dans le fond, la santé mentale est perdue en santé, là. Puis la santé, on sait comment c'est gros. Puis ça, fait qu'il n'y a pas vraiment au Québec, de place pour la santé mentale. Ça serait, je pense, une étape vraiment importante pour qu'on s'arrête, qu'on regarde ces phénomènes-là, qu'on n'en parle pas juste pendant quelques entrevues, puis après, on passe à autre chose. C'est qu'on se rend compte, que tous les acteurs concernés fassent vraiment un travail pour agir à ce niveau-là. Ça, je pense que ça serait vraiment une étape excessivement importante.
Mmh. Madame Gauthier, un gros merci. Premièrement, pour le livre, très intéressant. Ça s'appelle « Les antidépresseurs ne règlent pas tout. Mieux soutenir la santé mentale de nos jeunes ». Un livre qui se lit très, très bien, écrit de façon claire avec des tableaux, justement, pour imager les bouts où on a besoin de se faire imager ça. Et merci, parce que je pense que les jeunes en ont besoin et les parents aussi, parce que moi, j'ose même pas. Les miennes ont 6 et 9 ans, mais là, je m'imagine être pris dans des problèmes, parce que humeur maussade, ça arrive une fois de temps en temps, mais tu sais, là, quand on atteint symptômes dépressifs, anxiété, automutilation, pensée suicidaire, conduite alimentaire inquiétante, moi, ça me terrifie, puis je suis convaincu qu'il y a des parents qui vont être aidés par votre livre. Il est facilement trouvable dans n'importe quelle bonne librairie.
Merci beaucoup.
Eh bien, merci à vous. Passez une excellente soirée. Merci pour l'entrevue.
Au revoir.
Bye-bye. C'était le docteur Karine Gauthier, qui est psychologue, clinicienne, neuropsychologue également depuis 22 ans. Sujet très intéressant dont on n'entend pas beaucoup parler. Hein.
Moi, qu'on devrait parler plus.
Honnêtement, quand tu m'as parlé de faire cette entrevue-là, au début, j'étais comme « Ah oui, cool, parfait, on va parler justement là de voyons, le je cherche tout le temps le nom, d'être hyperactif. »
Ouais, le TDAH.
Le TDAH. Je me dis « On va parler de TDAH puis de Ritalin. » Là, quand je me suis mis à mieux comprendre ce dont on avait parlé, puis justement à voir le livre entre mes mains, « OK! » Il y a des... Elle vient de 6 ans, la mienne, là. Tu l'as entendu, Rosie, quand elle me souhaitait bonne fête l'autre jour?
Ça ne pourrait pas être ses antidépresseurs. Là. Je vois pas pourquoi... Je vois pas comment un enfant de 6 ans peut être dépressif. C'est ça qui est bizarre, mais c'est... Ça l'est pareil.
Hey man, des fois, justement, là, ma plus petite, elle joue avec le petit voisin qui a le même... C'est 7 ans, tu sais, le même âge. Puis ils sont dans l'imaginaire big time. Ils sont dans... Ils sont rigolos à voir aller, ils sont cute là, à voir aller, parce que justement...
Ils ont du fun. La naïveté du jeune.
Je pense... Moi, je rejoins les auditeurs sur plusieurs aspects. Premièrement, je me souviens plus quel auditeur a dit ça, mais moi avec, j'ai de la misère à m'enlever de la tête qu'il n'y a pas à quelque part dans l'équation Big Pharma. Puis je suis pas en train de te dire un complot, là, mais oui, probablement qu'il y a des façons de prévenir ça, de contrôler ça, qui n'est pas d'incitatif à la prescription, mais comme il y a des façons de contrôler, il y a des façons de contourner. Ça, c'est la vie. Tout le temps.
Puis Big Pharma les connaît, ces façons-là.
Ben voilà. Fait que ça, moi, je...
C'était le côté Radio X de l'entrevue.
Ouais, ben là, moi, je garde ma garde par rapport à cet enjeu-là. Puis l'autre affaire aussi, je suis pas parfait, mais c'est une affaire que je fais. Je pense que les parents, sans être trop dans la surprotection, parce que c'est important non plus aussi de laisser nos enfants vivre certains risques, d'avoir certains échecs, mais d'être une espèce de bouclier contre le monde stressant dans lequel on vit. Tu comprends ce que je veux dire?
Ouais, essayer de cacher la vérité dans le but de protéger, mais finalement, la vérité va y fesser d'en face à un moment donné.
Tu sais, moi, je pense là, que, exemple, je vais donner. Exemple réel. Moi, je me suis rendu compte à un moment donné là, que dans le court trajet entre chez nous et l'école, des fois, les boys, ils citent le matin puis ils font le job. Là, ils ont pas à penser à le show en fonction des petites filles de 6 ans qu'ils écoutent. Là. Mm-hmm. Mais parce que moi, c'est plus ma grande là, qui se fait des. Tu sais, qui réfléchit plus loin qui, des fois. Puis je me suis rendu compte que tout ce qui est entré au conflit ukrainien, elle n'aime pas ça. Elle n'aime pas ça. Le principe que des êtres humains se tuent ailleurs, ça pourrait-tu venir ici? Je me suis rendu compte que ça faisait pas, qu'un enfant de 9 ans se fasse une tête sur la guerre en Ukraine, ça donne à rien. Rien du tout. Là. Vous avez besoin d'avoir un hostifi de bon lunch pour me faire croire que c'est bon de parler de la guerre en Ukraine à un enfant de 9 ans. Fait que moi, quand on parle de guerre ou quand on parle de Charlie Kirk qui se fait garrocher une balle dans le cou, je mets mon bouclier et je ferme la radio ou je change de poste.
Là, c'est normal. T'sais, c'est pour la protéger de choses qu'elle n'a pas besoin de savoir. Mais il y en a des parents qui vont aller plus loin que ça et qui vont protéger d'absolument... Tout petit minime danger de stress qui peut exister autour de l'enfant, puis c'est là que ça devient problématique.
Je suis d'accord, exact. C'est de composer que les deux, là. Le stress de la vie intense qui est amené, puis qui est une shit d'adulte, tu sais, d'être confronté à des images comme Charlie Kirk ou Gaza, exact, là. C'est un génocide avec des enfants. Débattable, mais quand même, c'est ça qui est le plus répandu. Fait que vos enfants, en arrière dans le char, entendent ça. Ouais, les enfants qui se font buter par des soldats israéliens en grand nombre.
Ils n'ont pas besoin de savoir ça.
Ben, exact. C'est d'aucune utilité pour les enfants de se faire une, entre guillemets, une tête critique. Là. Moi, je trouve ça tellement en compte de penser à ça, là, surtout à 9 ans. Là. Adolescent, je ne dis pas, là, mais enfant, moi, je vais toujours être du bord de la protection de l'enfance. Puis dans la protection de l'enfance, il a conservé l'innocence de l'enfance.
Ouais, oh,
jusqu'à un certain âge, là, ça dépend aussi du profil de tous et chacun, là.
Ouais, mais il faut quand même garder un certain bout de vérité.
Je pense aussi. Je pense aussi par rapport à...
Les faire vivre dans le monde des licornes, sinon ils vont se péter à la gueule, mec, ils voient la vérité.
Tu sais, ils faire comprendre que... moi, je vois vraiment une différence entre... est-ce que notre monde va s'éteindre à cause des changements climatiques? Et si tu n'étudies pas et si tu ne te forces pas à l'école, tu vas couler ton examen et tu vas peut-être doubler... Et être séparé de ta gang d'amis. Moi, je vois vraiment deux affaires différentes. Là.
Complètement.
Et un d'y faire prendre conscience est beaucoup plus bénéfique pour l'enfant que l'autre. Je vous laisse deviner lequel.
je ne répondrai pas à cette question.
C'est assez simple, hein?
Je vous laisse réfléchir par vous-même.
Ouais, fait, regarde son livre, pour vrai, là, il se lit très, très bien. C'est un genre de 240 pages, même pas. C'est un genre
212?
De 212 pages, exact. 212 pages qui se lit très, très bien. Si vous êtes dans ce genre de problématique-là ou craignez de l'être, ben allez vous procurer ça. Ça vaut vraiment, vraiment la peine.
Yes.
On fait une courte pause. Le Spacecast est avec vous jusqu'à 22h.
Le Spacecast.
Avec JF Blais et Louis Gauvin.
Radio X.